telle sorte qu'on va heurter, en fin de compte, des réalités contradictoires dont on ne saura jamais quelle est la réalité, mais dont on saura toujours pourquoi on veut nous la présenter comme une exemple. Eh bien, je dirais que en face de cette position rationaliste, en face de cette position mythomaniaque, le mythologue et particulièrement les prophètes sont des hommes qui ont d'abord su qu'il n'existait que des croyances. Lorsqu'on étudie les plus anciens prophètes que nous connaissions, comme Anadap, un prophète sumérien du troisième millénaire avant Jésus-Christ, ou les prophètes des Rig Veda, ou les prophètes de la grande pyramide d'Égypte, on voit des hommes qui ont décrit, non pas des faits, non pas des événements, mais des croyances, et qui ont dit, à tel moment, voilà quel sera le Dieu qu'on honorera, à tel moment, voilà quelle sera la croyance prédominante. Et ils ne se sont pas trompés, ça s'est passé comme ça. Si on étudie plus près de nous les prophètes juifs, les grands prophètes juifs de la Bible, c'est-à-dire depuis Élie jusqu'à Daniel, Élie, Jérémie, Ézéchiel, on voit des hommes qui ont parlé de croyances. Le livre d'Ézéchiel, qui est une description assez minutieuse de ce qui allait suivre, ou le livre de Daniel, qui est la description de l'avènement du Christ et de la suite, sont des livres de croyances. On nous dit « le bélier m'a paru ». Le bélier, on sait ce qu'est le symbole du bélier, ce qu'il signifie zodiacalement et historiquement. Et puis, il y a eu le bouc de Javan, il y a eu le bouc, on sait ce qu'il représente mythologiquement. Et puis, il y a les anges qui interviennent, et on sait ce que représente les anges, etc. Et il nous décrit, et puis enfin, il y a loin celui qui sera le poisson, celui qui portera le message attendu, le poisson de Tobie, le poisson de Jonas, etc. Il va venir, il va naître, il sera là. Et à ce moment-là, Jérusalem disparaîtra, sera détruite, etc. C'est donc en se fondant sur les croyances, et pas sur les faits, que les prophètes sont amenés à dire « il va se passer cette chose ». Il va se passer cette chose parce que à tel moment on croira à telle chose, et que cette croyance a entraîné telle conséquence catastrophique ou non, d'ailleurs, telle destruction de ville ou au contraire telle création d'empire, non pas dans un sens justement de la cause à l'effet, non pas dans un sens du passé vers l'avenir, mais dans un sens inverse du devenir vers le devenu. Les choses sont en devenir et à un moment, elles deviennent. Je vais fumer une cigarette, ou je ne vais pas la fumer, je suis libre. Mais la cigarette ne sera fumée que quand je l'aurai fumée. Elle ne sera pas, comme le prétend le rationaliste, fumée avant d'être devant être fumée. Elle ne sera pas passée avant d'être à venir. Elle sera d'abord devenante et ensuite seulement passée. Et c'est ce que savent les prophètes. Les prophètes savent très bien qu'il n'y a pas le passé et puis l'avenir. Que chaque instant est neuf et vierge. Que je suis totalement libre maintenant de fumer ou de ne pas fumer ma cigarette, de boire ou de ne pas boire mon verre d'eau. Mais que quand je vais avoir fumé ma cigarette ou que quand j'ai avoir bu mon verre d'eau, le verre sera bu pour l'éternité. Ou ma cigarette sera fumée pour l'éternité. Elle sera passée définitivement et je ne pourrai rien y changer. C'est dire que dans le sens réel du temps, à l'opposé du temps rationaliste, les choses vont de l'avenir vers le passé. Ils ne peuvent pas aller de la cause vers les faits. Mais cette croyance qu'ont les hommes appelle certains actes comme quelque chose qui vous attirerait vers l'avenir, qui vous amènerait pour être plus près de Dieu, pour être plus bon, pour être meilleur, pour être plus juste, plus sage, plus vertueux. Je vais faire telle chose. Ce sont à ce moment-là des finalités qui commandent mes actes et non plus des causalités. Ce n'est pas parce que j'ai rêvé d'un... ou ma mère a rêvé d'un veau en termes de bronzé, ce n'est pas parce que j'ai désiré la bonne que je suis ce que je suis. Je suis d'abord ce que je suis parce parce que je suis appelé, je suis en marche vers quelque chose, et que cette croyance vers ma finalité entraîne pour moi tel acte, entraîne que je vais fumer ou ne pas fumer, boire ou ne pas boire. Et ce qui est vrai pour moi est vrai pour tout le monde. Et quand vous multipliez toutes ces possibilités, toutes ces potentialités, vous avez une famille, vous avez une société, vous avez une civilisation. Et donc, vous pouvez, à partir de ces croyances qui dirigent les hommes, décider, connaître à l'avance, prévoir les mouvements des civilisations. Pour admettre cette vision du monde, il faut évidemment faire une autre supposition. Il faut faire la supposition que le temps n'est pas une ligne droite à l'infini, comme l'imagine le progressisme actuel, que ce n'est pas quelque chose qui ne part de rien pour aller nulle part, mais que c'est une série de cycles d'orbites qui jouent les uns avec les autres, et qu'il n'existe rien, si vous voulez, que des formes temporelles qui sont dans le temps, comme les apparences sont dans l'étendue. Ces formes, ce sont les cycles. Vous en connaissez certains, nous vivons tous, personne ne vit hors des cycles. Quelquefois on l'oublie, on l'ignore, mais enfin, nous vivons tous dans le cycle circadien de 24 heures. Il n'y a pas de doute, vous savez qu'après le jour, il y a la nuit, après la nuit, il y a le jour. Vous le savez, vous n'y pensez plus, mais vous, non seulement vous le savez, mais vous y êtes soumis. Vous dormez la nuit, vous vivez le jour. Puis dans le jour, vous n'êtes pas le même à l'aube, vous n'êtes pas le même au crépuscule, vous vivez dans des tranches du temps. Et vous ne pouvez pas vivre en dehors de ces tranches du temps, vous ne pouvez pas vivre sans en tenir compte. C'est-à-dire que vos croyances dans les 24 heures vont être exactement conditionnées par les formes temporelles dans lesquelles vous vous trouverez. Vous n'aurez pas les mêmes pensées à l'aube, au crépuscule. Vous n'aurez pas le même rythme de respiration dans la veille et dans le sommeil. Vous n'aurez pas les mêmes aspirations avant et après le repas. Tout ça sont des choses qu'on commence à bien connaître et évidemment c'est un cycle. Un autre cycle dans lequel vous vivez tous, nous vivons tous sans en avoir conscience, c'est le cycle annuel. Il est vrai que à certains moments, la lumière est dispensée sur la terre entière. Elle naît lentement pendant tout l'hiver, elle va se développer, et puis elle va croître au printemps, et puis au 24 juin, elle va atteindre son apogée. Et puis au 24 juin, les jours seront très très longs. Et puis elle va se raccourcir, cette lumière, elle va disparaître, elle va s'atténuer, et puis il y aura, à l'opposé du midi, du midi de l'année, il y aura le minuit de l'année, qui sera la Noël, où il y aura, où la lumière sera à son point le plus bas. Et où la nuit sera la plus longue et le jour le plus court. Nous vivons de ces rythmes de l'année d'une manière absolue. C'est-à-dire que on n'est pas le même au printemps et en automne. Ce n'est pas par hasard que tous les poètes qui ont voulu évoquer l'automne l'ont fait avec nostalgie, avec regret, avec... à la fois une douceur de vivre et un regret de la chaleur de l'été et en même temps une attente de paix, de tranquillité, de causerie autour du foyer. Eh bien, c'est ça. En automne, les gens sont effectivement, ne sont pas les mêmes qu'au printemps. Ils ne sont pas les mêmes au mois d'août, ils ne sont pas les mêmes en janvier. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il ne s'agit pas que de penser. On sait maintenant que la pousse de l'herbe ou la pousse de la barbe n'est pas la même en janvier et en automne. On sait en janvier ou en septembre. On sait que à certaines périodes, les gens meurent plus facilement, les vieillards notamment, qu'à d'autres. Comme les gens meurent davantage dans la journée à l'heure du loup, vers 3 heures du matin, qu'à n'importe quelle heure du jour. Donc nous sommes entièrement liés à des rythmes, nous en connaissons de mieux en mieux d'autres auxquels nous serons habitués, nos fils seront obligés d'y vivre parce que les masses médias elles-mêmes seront obligées de leur en parler. Par exemple, le cycle solaire de 12 ans, qui va d'un minimum d'explosion solaire, de tâche solaire, d'un maximum à un minimum, de la même manière que l'année va l'année va de l'été à l'hiver, ou le jour va du midi au minuit. Et là encore, nous voyons bien, de mieux en mieux, que l'humanité, une société donnée, et l'humanité en général, n'est pas la même dans les minimums de tâches solaires et dans les maximums. Qu'il y a davantage de troubles, davantage d'émeutes, davantage d'épidémies, dans les périodes d'explosion solaire que dans les périodes de calme solaire. Dans un de mes livres, j'ai bien montré comment depuis la plus faible explosion solaire observée qui est 1905, ces explosions vont en croissant et en même temps les troubles, les désordres économiques d'abord et puis de plus en plus militaires, plus en plus politiques vont suivre cette progression des rythmes des tâches solaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les tâches solaires? Ce sont les moments où viennent exploser à la surface du Soleil une énergie interne, à l'astre, qui va se répandre en ondes ultraviolettes et donc qui va avoir, par les ondes ultraviolettes, des actions directes sur notre humanité. On peut aller plus loin et les mythologues connaissent des rythmes de 150 ans, 144 ans, qui se correspondent sensiblement à de grandes périodes historiques, à des périodes de... Une civilisation suit l'autre à peu près comme ça tous les 150 ans. Il y a effectivement des ruptures qui se passent dans les... Puis il y a le grand cycle de 2160 ans où c'est toute la croyance de l'humanité qui est remise en question. Il y a, pendant 2160 ans, les hommes ont cru dans la création, ont cru dans le taureau, ont cru dans le taureau Marduk, le taureau Apis, le taureau Nodin dans l'Inde. Et puis, on a cru dans le bélier d'Abraham, le bélier de la toison d'or, le bélier de Jason, le bélier de l'Odyssée de l'Iliade. Et les béliers, ça a été le temps de la justice, ça a été le temps de Jéhovah, le temps de Jupiter, le temps des dieux de justice, et l'homme n'a cru pendant ces 2000 ans que dans la loi, que dans la justice qui pourrait établir entre les hommes des rapports de tribus, de castes, de familles, de races. Ça a été la création de l'idée de race, par exemple, qui n'existait pas avant. Ce sont les Indiens brahmaniques ou les Juifs qui ont créé l'idée de race, qui n'existait pas précédemment, parce que la race, c'est le lieu clos dans lequel on peut contracter alliance avec Dieu. Et ceux qui ne sont pas ceux qui sont coupables, qui refusent l'alliance, on les coupe. Ce sont des coupables, on les coupe, on les rejette, on les exclut du cercle, on les rejette. Par l'interdit, on les rejette du foyer, on les rejette de la famille. Et puis pendant 2000 ans, depuis 2000 ans, nous voyons que les hommes vivent d'amour, que du moins de la volonté d'amour que le bouddhisme dans l'Inde, que le christianisme en Occident a enseigné le sacrifice de soi-même à son prochain, qu'il a dit que la création n'était pas tout, il a dit que la justice n'était rien, il a dit que ce qui comptait c'était l'amour, et le Bouddha disait la même chose dans l'Inde et d'autres disaient la même chose. Donc il y a pendant ces 2000 ans une croyance qui domine aussi les hommes, comme il y en a une pendant 150 ans, comme il y en a dans l'année, comme il y en a dans la journée, il y a des croyances qui se suivent, qui se rythment, qui s'organisent. Et la connaissance de ces rythmes, la connaissance de ces croyances, c'est tout l'ésotérisme, c'est ce qu'on appelle l'ésotérisme, et c'est ce qui permet la prophétie.